Chapitre 16. Un Noël glacial.
Donc, Rogue proposait de l'aider? Il proposait vraiment de l'aider?
Si tu me le demandes encore une fois, répliqua Harry, je te colle ce chou de Bruxelles dans le...
Ah ben, te vérifie, c'est tout, protesta Ron.
Ils étaient tous les deux seuls devant l'évier de la cuisine du terrier, occupés à éplucher une montagne de chou de Bruxelles pour Mrs. Wesley. Par la fenêtre, ils voyaient la neige tomber devant eux.
Oui, Rogue a proposé de l'aider, répéta Harry.
Il a dit qu'il avait promis à la mère de Malfoy de le protéger, qu'il avait fait avec elle un vœu inviolable ou je ne sais quoi.
« Un serment inviolable ?»
s'exclama Ron, stupéfait.
« Non, c'est impossible. Tu es sûr ?»«
Oui, j'en suis sûr, » répondit Harry. « Qu'est-ce que ça signifie ?»«
Bah, comme son nom l'indique, hein, on ne peut pas violer un serment inviolable. »
Aussi curieux que ça puisse te paraître, je m'en étais douté. Mais qu'est-ce qui se passe si on le viole ?»«
Tu en meurs, » dit simplement Ron.
« Fred et George ont voulu m'obliger à en faire un quand j'avais 5 ans. J'ai failli aller jusqu'au bout. Je tenais la main de Fred et il commençait à prononcer la formule quand papa est arrivé. »«
Il est devenu fou !»
se rappela Ron, l'œil brillant à l'évocation de ce souvenir.
« C'est la seule fois où j'ai vu papa aussi en colère que maman. Fred dit que sa fesse gauche n'a plus jamais été la même depuis. »«
D'accord, mais à part la fesse gauche de Fred... »«
Pardon !» lança derrière eux la voix de Fred. Les jumeaux venaient d'entrer dans la cuisine.
Ah, George, regarde ça! Ils utilisent des couteaux et tout le matériel. Je leur souhaite bien du plaisir.
Dans un peu plus de 2 mois, j'aurai 17 ans, grogna Ron. Et à ce moment-là, j'aurai le droit de pratiquer la magie.
Mais en attendant, dit George, qui s'assit à la table et posa les pieds dessus, on peut encore assister à une belle démonstration de la façon dont on doit se servir d'un oula!
« C'est ta faute !» s'écria Ron avec colère en suçant la coupure qu'il venait de se faire au pouce. « Attends un peu que j'ai 17 ans !»«
Je suis sûr que tu nous éblouiras par des talents magiques, jusqu'alors insoupçonnés, » dit Fred en bâillant.
« Et en parlant de talents jusqu'alors insoupçonnés, Ronald, c'est quoi cette histoire que Ginny nous a racontée à propos de toi et d'une jeune demoiselle qui s'appellerait, si nos informations sont exactes, Lavande Brown ?»
demanda George. Ron rougit un peu, mais il ne sembla pas mécontent, tandis qu'il retournait à ses choux de Bruxelles.
« Occupez-vous de vos affaires !»«
Oh, quelle réplique cinglante !» commenta Fred. « Je me demande où tu vas les chercher. Mais ce qu'on voulait savoir, c'était comment est-ce arrivé ?»«
Mais qu'est-ce que tu veux dire ? » ?»«
Elle a eu un accident ou quoi ? » ?»«
Hein ? Pour avoir le cerveau aussi abîmé. Attention !»
Mrs. Wesley entra au moment où Ron jetait le couteau avec lequel il épluchait les choux de Bruxelles droit sur Fred, qui le transforma d'un petit coup de baguette magique en un avion en papier.
« Ron !» dit Mrs. Wesley avec fureur. « Que je ne te vois plus jamais lancer de couteau !»«
C'est promis, je le ferai plus !»
répondit Ron. « Quand tu seras là » ajouta-t-il dans un murmure en se tournant à nouveau vers la montagne de choux de Bruxelles.
« Fred, George, je suis désolé, mes chéris, mais Rémus arrive ce soir et vous devrez donc faire une petite place à Bill. »«
Pas de problème, » assura George.
« Comme Charlie ne revient pas à la maison, Harry et Ron coucheront dans le grenier. Et si Fleur partage la chambre de Ginny, ce sera le plus beau cadeau de Noël de Ginny, »
marmonna Fred.
« Tout le monde sera confortablement installé. Enfin, au moins, chacun aura son lit, »
dit Mrs. Wesley qui avait l'air un peu fatiguée. On est certain que Percy ne montrera pas sa sale tête, demanda Fred. Mrs. Wesley se détourna avant de répondre.
Non, j'imagine qu'il est trop occupé au ministère.
Ou alors c'est le plus grand crétin du monde, dit Fred lorsque Mrs. Wesley eut quitté la cuisine. L'un des deux.
Bon, eh bien, allons-y, George.
Mais qu'est-ce que vous mijotez ? Interrogea Ron. Vous ne pourriez pas nous aider pour les sous de Bruxelles ? Vous n'auriez qu'à vous servir de votre baguette et nous aussi, on serait libres.
Non. « Je ne pense pas que nous soyons disposés à le faire, » répondit Fred très sérieux. « Éplucher des choux de Bruxelles sans recourir à la magie est excellent pour former le caractère. Ça permet de se rendre compte combien c'est difficile pour les moldus et les craquemolles. »«
Et puis, si tu veux que les gens t'aident, » ajouta George en lui jetant l'avion en papier.
« Il vaut mieux ne pas leur balancer les couteaux à la figure. Simple suggestion, hein. On va au village où il y a une très jolie fille qui travaille chez le marchand de journaux et qui trouve mes tours de cartes absolument merveilleux, quasi magiques. »
« Bande d'affreux !» marmonna Ron d'un air sombre en regardant Fred et George traverser le jardin enneigé. « Ça n'aurait pas pris plus de 10 secondes. On aurait pu sortir aussi. »«
Moi, je n'aurais pas pu, » soupira Harry. « J'ai promis à Dumbledore de ne pas aller me promener pendant que je serai ici. »
« Ah oui, bien sûr. »
dit Ron. Il éplucha quelques choux de Bruxelles, puis ajouta
« Tu vas raconter à Dumbledore la conversation que tu as entendue entre Rogue et Malfoy ?»«
Oui, » répondit Harry. « Je vais la raconter à tous ceux qui peuvent mettre un terme à ça, et Dumbledore est en tête de liste. Peut-être que j'en dirai un mot aussi à ton père. Dommage que tu n'aies pas su ce que Malfoy cherche à faire.
Je n'aurais pas pu. C'était justement ça le fond des choses. Il refusait d'en parler à Rogue. »
Il y eut un moment de silence, puis Ron reprit.
« Tu te doutes, bien sûr, de ce que tout le monde dira, papa, Dumbledore et tous les autres, hein, que Rogue n'essaye pas vraiment d'aider Malfoy, qu'il voulait simplement savoir ce qu'il préparait. »
« Ils ne l'ont pas entendu, » trancha Harry d'un ton catégorique. « Personne ne peut jouer aussi bien la comédie, pas même Rogue. »«
Oui, je disais ça comme ça. »
Harry se tourna vers lui, les sourcils froncés. « Tu penses que j'ai raison, non ?»«
Oh, oui, bien sûr, » t'empressa de répondre Ron. « Sérieusement, je te crois, hein. Mais ils sont tous convaincus que Rogue fait partie de l'ordre, non ?»
Harry resta silencieux. Il avait prévu qu'on lui opposerait cet argument. Il lui semblait déjà entendre Hermione.
« C'est évident, Harry. Il prétendait vouloir aider Malfoy pour l'inciter à lui raconter ce qu'il préparait. »
Il ne pouvait cependant qu'imaginer ses commentaires, car il n'avait pas trouvé le temps de lui rapporter ce qu'il avait entendu. Hermione avait disparu de la fête de Slughorn avant que lui-même y soit revenu. C'était en tout cas ce que lui avait dit un McLaggen furieux. Et quand il était retourné dans la salle commune, elle était déjà montée se coucher. Comme Ron et lui partaient de bonne heure le lendemain matin pour aller au terrier, il avait tout juste eu le temps de lui souhaiter un joyeux Noël et de lui annoncer qu'il aurait des nouvelles très importantes à lui communiquer à leur retour de vacances. Mais il n'était pas vraiment sûr qu'elle l'ait entendu, car pendant qu'il lui parlait, Ron et Lavande avaient échangé, juste derrière lui, un très long « au revoir » qui se passait de mots. Pourtant, même Hermione ne pourrait le nier. Malfoy mijotait vraiment quelque chose, et Rogue le savait. Harry pouvait donc légitimement affirmer « Je te l'avais bien dit », ce qu'il ne s'était pas privé de faire auprès de Ron. Harry n'eut pas l'occasion de parler à M. Weasley, qui avait travaillé de longues heures au ministère jusqu'au soir du réveillon. Les Weasley et leurs invités étaient installés dans le living room, décoré par Ginny, avec une telle profusion qu'on avait l'impression d'être assis au milieu d'une explosion de guirlandes. Fred et George, Harry et Ron, étaient les seuls à savoir que l'ange accroché au sommet du sapin était en réalité un gnome de jardin qui avait mordu Fred à la cheville alors qu'il arrachait des carottes pour le réveillon. Stupéfixé, peint en doré, serré dans un tutu miniature avec de petites ailes collées sur le dos, il les regardait d'un œil noir. Jamais Harry n'avait vu un ange aussi laid, avec sa grosse tête chauve semblable à une pomme de terre et ses pieds velus.
Ce soir-là, ils devaient tous écouter une émission de Noël avec en vedette la chanteuse préférée de Mrs. Weasley, Célestina Moldubeck, dont la voix gazouillante s'élevait du grand poste de radio en bois. Fleur, qui semblait trouver Célestina très ennuyeuse, parlait à voix si haute, dans son coin, que Mrs. Weasley, l'air mécontent, ne cessait de pointer sa baguette sur le bouton du son, si bien que Célestina chantait de plus en plus fort.
Couvert par une chanson particulièrement jazzy, intitulée « Un chaudron plein de passion », Fred et George avaient entamé une partie de bataille explosive avec Ginny. Ron, de son côté, lançait des regards en biais à Fleur et à Bill, comme s'il espérait s'instruire. Pendant ce temps, Rémus Lupin, plus maigre et déguenillé que jamais, était assis auprès du feu, perdu dans ses pensées profondes, indifférent à la voix de Célestina qui chantait
« Oh, viens, viens remuer mon chaudron, et si tu t'y prends comme il faut, je te ferai bouillir une grande passion pour te garder ce soir près de moi bien au chaud. »
« Nous dansions là-dessus quand nous avions 18 ans, » dit Mrs. Weasley en s'essuyant les yeux avec le pull qu'elle était en train de tricoter.
« Tu te souviens, Arthur ?»
marmonna M. Weasley qui dodelinait de la tête en épluchant un kumquat.
« Oh oui, oui, merveilleux, merveilleuse chanson !»
Il fit un effort pour se redresser un peu et se tourna vers Harry, assis à côté de lui.
« Désolé de t'infliger ça, » s'excusa-t-il en désignant d'un signe de tête le poste de radio tandis que Célestina chantait le refrain.
« Ce sera bientôt fini. »«
Mais c'est pas grave, » répondit Harry avec un sourire. « Vous avez eu beaucoup de travail au ministère ?»«
Oh oui, » dit M. Weasley. «
Ça ne me dérangerait pas, si les résultats en valaient la peine. Mais sur les 3 personnes que nous avons arrêtées ces 2 derniers mois, je doute qu'il y en ait une seule qui soit véritablement un mange-mort. « Surtout, ne le répète à personne, Harry »
ajouta-t-il aussitôt, l'air soudain beaucoup plus réveillé.
« Et ils n'ont quand même pas gardé Stan Rockade en prison, j'espère. »« J'ai bien peur que si. Je sais que Dumbledore a essayé d'intervenir directement auprès de Scrimgeour au sujet de Stan. Tous ceux qui l'ont vraiment interrogé s'accordent à dire qu'il n'est pas plus mange-mort que ce Kumquat. Mais, en haut lieu, ils veulent donner l'impression de progresser et 3 arrestations sonnent mieux que 3 personnes arrêtées par erreur ont été relâchées. » Encore une fois, tout cela est top secret.
Je ne dirai rien, promit Harry. Il hésita un instant, cherchant le meilleur moyen d'aborder le sujet dont il voulait parler. Pendant qu'il mettait un peu d'ordre dans ses pensées, Célestina entama une ballade qui avait pour titre « Tu as ensorcelé mon cœur ». Monsieur Wesley, vous vous souvenez de ce que je vous ai dit à la gare le jour où nous partions pour l'école ?
J'ai vérifié, répondit immédiatement Monsieur Wesley. « J'ai perquisitionné la maison des Malfoy et je n'ai trouvé aucun objet ni cassé ni entier qui n'aurait pas dû être là. »«
Oui, je sais, j'ai lu ça dans la Gazette, mais je voudrais vous parler d'autre chose, quelque chose de plus. » Et il raconta à M. Wesley la conversation entre Malfoy et Rogue. Tandis qu'il parlait, Harry vit Lupin tourner légèrement la tête vers lui, écoutant chaque mot. Lorsqu'il eut terminé, il y eut un silence et on n'entendit plus que la voix suave de Célestina qui chantait
« Oh, mon cœur malheureux, où s'en est-il allé? C'est pour un sortilège qu'il m'a abandonné. »
« T'est-il venu à l'idée, Harry, que Rogue faisait simplement semblant ?» commença M. Wesley. « Semblant de proposer son aide pour pouvoir découvrir ce que Malfoy préparait ?» acheva Harry. « Oui, je pensais bien que vous me diriez cela. » « Mais comment le savoir ?»«
Ce n'est pas notre affaire de le savoir !»
intervint inopinément Lupin. Il avait à présent tourné le dos à la cheminée et regardait Harry en face, derrière M. Wesley, assis entre eux.
« C'est l'affaire de Dumbledore. Dumbledore a confiance en Severus et cela devrait nous suffire à tous. »«
Mais, » répondit Harry, « imaginons simplement que Dumbledore se trompe au sujet de Rogue.
Il y a des gens qui l'ont souvent prétendu. » Tout dépend si on fait confiance au jugement de Dumbledore ou pas. Moi, j'ai confiance, donc j'ai aussi confiance en Severus.
Mais Dumbledore peut commettre des erreurs, répliqua Harry. Il le dit lui-même, et vous ? Il fixa Lupin droit dans les yeux.
Franchement, vous aimez Rogue ? Je ne peux pas dire que j'aime ou que je n'aime pas Severus, ni l'un ni l'autre, répondit Lupin. « Non, Harry, c'est la vérité, » ajouta-t-il en voyant son air sceptique. « Nous ne serons peut-être jamais des amis intimes. Tout ce qui s'est passé entre James et Sirius, d'un côté, et Severus de l'autre, a laissé trop de souvenirs amers. Mais je n'oublie pas que pendant l'année où j'ai enseigné à Poudlard, Severus m'a préparé chaque mois la potion Tulou d'une manière parfaite, si bien que je n'ai jamais eu à souffrir de la pleine lune comme cela m'arrive d'habitude. »
Mais il a quand même laissé comprendre, incidemment, que vous étiez un loup-garou, ce qui vous a obligé à partir, dit Harry avec colère. Lupin haussa les épaules.
La nouvelle aurait filtré de toute façon. Nous savons tous les deux qu'il voulait ce poste, mais il aurait pu me faire encore plus de mal s'il avait trafiqué la potion. Il m'a permis de conserver la santé. Je dois lui en être reconnaissant.
Peut-être qu'il n'a pas osé toucher à la potion parce que Dumbledore le surveillait, objecta Harry.
« Tu as décidé de le haïr, Harry, »
dit Lupin avec un faible sourire.
« Et je te comprends. James étant ton père et Sirius ton parrain, tu as hérité d'un vieux préjugé. Va donc répéter à Dumbledore ce que tu as raconté à Arthur et à moi, mais ne t'attends pas à ce qu'il partage ton point de vue sur la question. Ne t'attends même pas à ce qu'il soit surpris de ce que tu lui diras. » « C'est peut-être sur ordre de Dumbledore que Severus a interrogé Drago. » « Maintenant que tu l'as brisé, sans la moindre pitié, fais-moi, je t'en prie, la faveur de me rendre mon cœur. » « Pa-da-ba-da-pouda, pa-ta-pa-pa !»
Célestina acheva sa chanson sur une longue note aiguë, déclenchant dans le poste des applaudissements retentissants auxquels Mrs. Wesley se joignit avec enthousiasme.
« Ça y est, c'est fini, oui, oh là là !» dit Fleur d'une voix sonore. « C'est pas trop tôt, quelle horrible chanson, oh là là !»«
Envoie un petit verre avant de monter se coucher !» proposa M. Wesley en parlant plus fort qu'elle,
Qui veut un leg pull ?
Qu'est-ce que vous avez fait ces temps derniers ? Demanda Harry à Lupin, tandis que M. Weasley se hâtait d'aller chercher le leg pull. Les autres s'étirèrent et les conversations reprirent.
« Oh, je me suis consacré à un travail souterrain, » répondit Lupin, « presque au sens propre du terme. C'est la raison pour laquelle je n'ai pas pu t'écrire, Harry. T'envoyer des lettres aurait éveillé les soupçons. »«
Que voulez-vous dire ? » ?»«
J'ai passé mon temps avec mes semblables, mes égaux, » expliqua Lupin. « Les loups-garous, » ajouta-t-il devant l'air d'incompréhension de Harry. « Ils sont presque tous dans le camp de Voldemort. Dumbledore voulait un espion parmi eux, et j'étais là, prêt à l'emploi. »
Il semblait un peu amer et s'en rendit peut-être compte car il eut un sourire plus chaleureux avant de poursuivre.
« Je ne m'en plains pas. C'est un travail nécessaire et qui peut l'accomplir mieux que moi. Mais il a été difficile de gagner leur confiance. On voit tout de suite à certains signes indiscutables que j'ai essayé de vivre parmi les sorciers alors qu'eux ont fui la société normale et mènent une existence marginale en volant et parfois en tuant pour manger. »
Comment se fait-il qu'ils préfèrent Voldemort ?
Ils pensent que sous son pouvoir, ils auront une meilleure vie, dit Lupin. Il est difficile de discuter avec Greyback.
Qui est Greyback ?
Tu n'as jamais entendu parler de lui ?
Les mains de Lupin posées sur ses genoux se crispèrent en un geste convulsif.
Greyback est sans doute le plus sauvage des loups-garous vivant aujourd'hui. Il considère comme sa mission dans l'existence de mordre et de contaminer le plus de gens possible. Il veut créer suffisamment de loups-garous pour que leur nombre l'emporte sur celui des sorciers. Voldemort lui a promis des proies en échange de ses services. Greyback se spécialise dans les enfants. « Mordez-les quand ils sont jeunes, » dit-il, « et élevez-les loin de leur famille. Apprenez-leur à haïr les sorciers normaux. » Voldemort menace souvent les parents de les lâcher sur leur fils ou leur fille, une tactique qui produit généralement de bons résultats.
Lupin s'interrompit un instant, puis il dit
« C'est Greyback qui m'a mordu.
Quoi ?» « Quoi ? » s'exclama Harry stupéfait.
« Quand vous étiez enfant ?»« Oui, mon père l'avait offensé. Pendant longtemps, j'ai ignoré l'identité du loup-garou qui m'avait attaqué. » J'éprouvais même de la pitié pour lui, en pensant qu'il n'avait pas pu se contrôler, car je savais alors ce qu'on ressent quand on se transforme. Mais Greyback n'est pas comme ça. À la pleine lune, il se place à proximité de ses victimes désignées, s'assurant ainsi qu'il sera suffisamment près d'elles pour les frapper. Il organise tout d'avance. Voilà l'homme dont Voldemort se sert pour diriger les loups-garous. Je ne peux pas prétendre que mes arguments rationnels aient beaucoup d'influence face au discours de Greyback, qui répète sans cesse que les loups-garous ont droit à du sang, que nous devrions nous venger sur les gens normaux.
« Mais vous êtes normal !» affirma Harry avec force. « Vous avez simplement un problème. » Lupin éclata de rire.
« Parfois, tu me rappelles beaucoup, James. En public, il appelait ça mon petit problème de fourrure. Les autres croyaient souvent que je possédais un lapin mal élevé. »
L'air un peu plus joyeux, Lupin remercia M. Weasley qui lui avait apporté un verre de lait de poule. Harry éprouva une soudaine excitation. Cette allusion à son père venait de lui rappeler qu'il avait une question importante à poser à Lupin. « Avez-vous jamais entendu parler de quelqu'un qui s'appelait le prince de Sang-Mêlé ? »
« Quoi, de s'en mêler ?»«
Le prince, » répéta Harry en l'observant attentivement pour voir si le nom évoquait quelque chose en lui.
« Il n'y a pas de prince chez les sorciers, » répondit Lupin qui souriait à présent. « C'est un titre que tu songes à adopter ? Je pensais que l'élu te suffirait. »«
Ça n'a aucun rapport avec moi, » s'indigna Harry. « Le prince de s'en mêler est quelqu'un qui étudiait à Poudlard. J'ai son ancien livre de potions, et il a écrit des formules sur toutes les pages, des sortilèges qu'il a inventés lui-même. L'un d'eux était le Lévi-Corpus. »«
Oh, celui-là a été très à la mode quand j'étais à Poudlard, »
se rappela Lupin.
« Au cours de ma cinquième année, il y a eu quelques mois pendant lesquels on ne pouvait plus faire un pas sans se retrouver suspendu dans les airs par une cheville. »«
Et mon père s'en est servi, » dit Harry. Je l'ai vu dans la pancine, il l'a utilisé contre Rogue. Il avait essayé d'adopter un ton dégagé, comme s'il s'agissait d'une remarque sans importance, lancée en passant, mais il n'était pas certain d'avoir obtenu l'effet désiré. Le sourire de Lupin montrait qu'il comprenait un peu trop bien.
« Oh oui, mais il n'était pas le seul.
Comme je te le disais, c'était un sortilège très apprécié à l'époque. Toutes ces formules vont et viennent, comme tu le sais.
Mais il semble avoir été inventé pendant que vous étiez à l'école, insista Harry.
Pas forcément, répondit Lupin. Ces maléfices redeviennent parfois à la mode puis disparaissent à nouveau, comme tout le reste.
Il regarda Harry dans les yeux et dit à voix basse.
Et James était un sang pur, Harry. Et je peux te promettre qu'il ne nous a jamais demandé de l'appeler prince.
Abandonnant tout faux semblant, Harry demanda.
Et ce n'était pas Sirius? Ou vous?
Certainement pas!
Ah! Harry contempla le feu dans la cheminée. Je pensais simplement que... En fait, le prince m'a été très utile en cours de potion.
Ce livre date de quand, Harry?
Je sais pas. Je n'ai jamais regardé.
Peut-être que ça te donnera une idée de l'époque à laquelle le prince était à Poudlard, dit Lupin.
Peu après, Fleur décida d'imiter Célestina chantant un chaudron plein de passion, ce que tout le monde considéra, en voyant l'expression de Mrs. Weasley, comme le signal qu'il était temps d'aller se coucher. Harry et Ron montèrent tout en haut dans la chambre que Ron avait au grenier et où un lit de camp avait été ajouté pour Harry. Ron s'endormit presque immédiatement, mais avant de se mettre au lit, Harry plongea dans sa grosse valise pour y prendre son manuel avancé de préparation des potions. Il tourna les pages jusqu'à ce qu'il trouve enfin, au tout début du livre, la date à laquelle il avait été publié, c'est-à-dire 50 ans auparavant. Ni son père, ni les amis de son père n'étaient à Poudlard à cette époque-là. Déçu, Harry jeta le livre dans sa valise, éteignit la lampe et se retourna dans son lit, pensant au loup-garou et à Rogue, à Stan Rockade et au prince de Sang-Mêlé, puis sombrant enfin dans un sommeil agité, rempli d'ombres qui rôdaient autour de lui et de cris d'enfants mordus.
« Elle plaisante ou quoi ?»
Harry se réveilla en sursaut et trouva une grosse chaussette posée au pied de son lit. Il mit ses lunettes et regarda à côté de lui. Devant la minuscule fenêtre presque entièrement masquée par la neige, Ron, assis droit dans son lit, examinait une épaisse chaîne d'or.
« Qu'est-ce que c'est que ça ?» demanda Harry. « C'est Lavande qui me l'a envoyé, » répondit Ron, indigné. « Elle peut quand même pas penser que je vais porter. »
Harry regarda de plus près et éclata d'un grand rire. Accrochées à la chaîne, de grosses lettres d'or formaient les mots « ma bien-aimée ».
« Ah, très jolie, dit-il. Beaucoup de classe. Tu devrais la mettre quand Fred et Jean sont là. »« Si jamais tu leur racontes ça, » menaça Ron en cachant le collier sous son oreiller. « Je vais me bégayer à la figure, » suggéra Harry avec un sourire. « Tu crois vraiment que je ferais une chose pareille ?»«
Comment a-t-elle pu imaginer que ce matin-là me plairait ?» demanda Ron dans le vide, l'air passablement choqué.
« Essaye de te souvenir, » dit Harry. « Tu ne lui as jamais laissé entendre que tu aimerais bien te promener en public avec ma bien-aimée autour du cou ?»«
En fait, on ne parle pas tellement, » répondit Ron. « On passe surtout de notre temps à vous embrasser, » acheva Harry.
« Ben oui, c'est ça, » admit Ron.
Il hésita un moment, puis ajouta.
« C'est vrai que Hermione sort avec McLaggen ?»«
Je sais pas. » Ils étaient ensemble, en tout cas, à la soirée de Slughorn, mais je crois que ça s'est pas très bien passé. Ron parut un peu plus joyeux lorsqu'il replongea dans les profondeurs de sa chaussette. Parmi les cadeaux de Harry, il y avait un pull avec un grand vif d'or tricoté par Mrs. Weasley, une grosse boîte de produits de farce pour sorciers facétieux envoyés par les jumeaux, ainsi qu'un paquet légèrement humide qui sentait le moisi et dont l'étiquette indiquait
« au maître de la part de créature ».
Harry regarda le paquet.
« Tu crois que je peux l'ouvrir sans risque ?» demanda-t-il.
« Ça ne peut pas être dangereux. Notre courrier est contrôlé par le ministère, » répondit Ron tout en observant le paquet d'un air soupçonneux.
« Je n'ai pas songé à envoyer de cadeaux à créature. Est-ce que les gens ont l'habitude d'offrir quelque chose à leur elfe de maison pour Noël ?»
interrogea Harry en tâtant le paquet avec précaution.
« Hermione le ferait sûrement, » dit Ron. « Mais attends de voir ce que c'est avant de te sentir coupable. »
Un instant plus tard... Harry poussa un grand cri et bondit hors de son lit. Le paquet était rempli d'asticots.
« Sarment !» commenta Ron dans un grand éclat de rire. « Très délicate attention !»«
Moi, je préfère ça à ton collier, » répliqua Harry, ce qui calma aussitôt Ron. Lorsqu'ils s'assirent à la table pour le déjeuner, Ils portaient tous de nouveaux pulls, à l'exception de Fleur, pour qui, semblait-il, Mrs. Wesley n'avait pas voulu gaspiller sa laine, et de Mrs. Wesley elle-même, qui arborait un tout nouveau chapeau de sorcière bleu nuit, parsemé de minuscules étoiles étincelantes, apparemment en diamant, ainsi qu'un collier d'or spectaculaire.
« C'est Fred et Georges qui me les ont offerts. Ils sont magnifiques, non ?»«
Tu vois, maman, maintenant que nous lavons nos chaussettes nous-mêmes, nous t'apprécions de plus en plus, » dit Georges avec un geste dégagé. « Un peu de panais, Rémus ?»«
Harry, tu as un asticot dans les cheveux !»
dit Ginny d'un ton amusé en se penchant par-dessus la table pour le lui enlever. Harry sentit dans sa nuque un frisson qui n'avait rien à voir avec l'asticot.
« Oh là là! Mais c'est absolument horrible !»
s'exclama Fleur avec un haut-le-corps affecté.
« Ah oui, n'est-ce pas ?» dit Ron. « Un peu de sauce, Fleur !»
Dans sa hâte de la servir, il renversa la saucière. Bill donna un petit coup de baguette magique et la sauce s'éleva dans les airs pour retourner docilement dans son récipient.
« Oh là là, tu es aussi maladroit que cette tonque !» dit Fleur à Ron lorsqu'elle eut fini d'embrasser Bill pour le remercier. « C'est fou ce qu'elle peut renverser de... »«
J'ai invité notre cher tonque à venir aujourd'hui !» l'interrompit Mrs. Wesley, qui lança à Fleur un regard noir en posant les carottes sur la table avec une force injustifiée.
« Mais elle n'a pas voulu. Tu lui as parlé ces derniers temps, Rémus ?»«
Oh non, je n'ai pas vu grand monde !» répondit Lupin. « Mais tonque va dans sa propre famille, non ?»
dit Mrs. Wesley.
« Peut-être. En fait, j'ai plutôt l'impression qu'elle avait l'intention de passer Noël seule. »
Elle regarda Lupin d'un air agacé comme si c'était à cause de lui qu'elle avait Fleur comme belle-fille plutôt que Tonque. Mais Harry, qui observait Fleur à la dérobée tandis qu'elle faisait manger à Bill des morceaux de dinde avec sa propre fourchette, songea que Mrs. Wesley livrait à un combat perdu depuis longtemps. Il se souvint alors d'une question qu'il s'était posée à propos de Tonque et à laquelle Lupin, l'homme qui savait tout des Patronus, était le mieux placé pour répondre. « Le Patronus de Tonque a changé de forme, lui dit-il. C'est en tout cas ce que prétend Rogue. Je ne savais pas que ça pouvait se produire. Pourquoi un Patronus changerait-il ? » Lupin prit son temps pour mâcher sa dinde et l'avaler avant d'expliquer d'une voix lente.
« Parfois, un grand choc, un bouleversement émotionnel. »
« Il paraissait très grand, avec quatre pattes, » reprit Harry. Frappé par une soudaine pensée, il ajouta à voix basse, « Est-ce que ça ne pourrait pas être... »«
Arthur !»
dit soudain Mrs. Wesley. Elle s'était levée de sa chaise, la main pressée contre son cœur, les yeux fixés sur la fenêtre de la cuisine.
« Arthur, c'est Percy !»«
Quoi ?»
Monsieur Wesley se retourna. Tout le monde regarda par la fenêtre. Ginny se leva à son tour pour mieux voir. C'était bien Percy Wesley qui traversait à grands pas le jardin, enneigé, ses lunettes d'écaille brillant sous le soleil. Mais il n'était pas seul.
« Arthur, il est avec le ministre !»
En effet, l'homme dont Harry avait vu la photo dans la Gazette du Sorcier suivait Percy, en boitant légèrement, sa crinière grisonnante et sa cape noire parsemée de neige. Avant que quiconque ait pu prononcer un mot, avant que M. et Mrs. Wesley aient pu faire autre chose que d'échanger des regards stupéfaits, la porte de derrière s'ouvrit et Percy entra. Il y eut un moment de douloureux silence. Puis Percy dit avec raideur
« Joyeux Noël, maman !»«
Oh, Percy !»
s'exclama Mrs. Wesley, et elle se jeta dans ses bras. Rufus Grimjour s'arrêta sur le seuil de la porte, appuyé sur sa canne, souriant au spectacle de cette scène touchante.
« Pardonnez cette intrusion !»
déclara-t-il, lorsque Mrs. Wesley se tourna vers lui, le visage rayonnant en essuyant ses larmes.
« Percy et moi étions dans les environs. Le travail, vous comprenez. Il n'a pas pu résister à l'envie de vous faire à tous une petite visite. »
Mais Percy ne manifestait aucun désir de saluer qui que ce soit d'autre dans la famille. Il restait là, droit comme un piquet, l'air mal à l'aise, regardant ailleurs. Monsieur Wesley, Fred et Georges l'observaient tous les trois, le visage impassible.
« Asseyez-vous donc, monsieur le ministre !»
proposa Mrs. Wesley d'un air affairé en redressant son chapeau.
« Vous prendrez bien un peu de dingue ou un goût de bateau ?»
« Non, non, ma chère Molly !» répondit Scrimgeour.
Harry devina qu'il avait dû demander à Percy quel était son prénom avant d'entrer dans la maison.
« Je ne veux pas m'imposer. Je ne serais même pas venu si Percy n'avait pas eu une telle envie de vous retrouver tous.
Oh, Perse !»
dit Mrs. Wesley, les yeux pleins de larmes, en se dressant sur la pointe des pieds pour l'embrasser.
« Nous ne resterons pas plus de 5 minutes. Je vais aller me promener dehors pendant que vous bavarderez avec Percy. Non, 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 je vous assure, je ne veux surtout pas m'immiscer. Si quelqu'un voulait bien me montrer votre charmant jardin... Ah tiens, je vois que ce jeune homme a fini de manger. Pourquoi ne fait-il pas un petit tour avec moi ?»
L'atmosphère changea autour de la table. Tout le monde regarda alternativement Scrimgeour et Harry. Nul ne semblait convaincu que Scrimgeour était sincère quand il prétendait ignorer le nom de Harry ou l'avoir choisi au hasard pour l'accompagner dans le jardin alors que Ginny, Fleur et George avaient eux aussi fini leur assiette. « Oui, d'accord, » répondit Harry dans le silence qui s'était installé. Il n'était pas dupe. Scrimgeour avait beau affirmer qu'il se trouvait dans les environs et que Percy avait tenu à venir dire bonjour à sa famille, il ne faisait aucun doute que la véritable raison de leur présence était qu'ils voulaient parler seul à seul avec Harry. « C'est très bien, » dit-il à voix basse en passant devant Lupin, qui s'était à moitié levé de sa chaise. « Très bien, » répéta-t-il alors que M. Wesley s'apprêtait à parler.
« Merveilleux !»
dit Scrimgeour en reculant d'un pas pour laisser Harry sortir.
« On va simplement marcher un peu dans le jardin, et nous repartirons tout de suite, Percy et moi. Continuez comme si je n'étais pas là. »
Harry traversa la petite cour qui menait au jardin touffu et couvert de neige des Wesley, Scrimgeour boitant légèrement à côté de lui. Harry savait qu'il avait été directeur du bureau des Aurores. Il paraissait coriace et portait les marques d'une vie de combat. Son allure contrastait avec la silhouette corpulente de Fudge, coiffée de son éternel chapeau melon.
« Vraiment charmant, charmant ce jardin !»
dit Scrimgeour qui s'arrêta devant la clôture en promenant son regard sur la pelouse enneigée et les plantes indistinctes en cette saison.
« Absolument charmant !»
Harry resta silencieux. Il sentait que Scrimgeour l'observait.
« Il y a longtemps que je voulais vous voir, » reprit Scrimgeour au bout d'un moment. « Vous le saviez ?»«
Non, » répondit Harry en toute sincérité.
« Eh oui, bien, bien longtemps. Mais Dumbledore est très protecteur à votre égard. C'est normal, bien sûr. Après tout ce que vous avez enduré, et surtout ce qui s'est passé au ministère. »
Il attendit que Harry dise quelque chose, mais voyant qu'il n'était pas décidé à lui donner satisfaction, il poursuivit.
« Et depuis que je suis entré en fonction, j'ai espéré trouver l'occasion de m'entretenir avec vous, mais... Dumbledore, et c'est très compréhensible de sa part, a empêché cette rencontre. »
Harry, toujours silencieux, attendit.
« Il y a eu tellement de rumeurs autour de vous, » continua Scrimgeour. « Bien sûr, nous savons tous les deux à quel point ces histoires sont déformées. Tous ces ragots au sujet d'une prophétie... Ou ce surnom d'élu qu'on vous a donné ?»
Ils abordaient à présent la raison de sa visite, songea Harry.
« J'imagine que Dumbledore a évoqué tout cela avec vous. »
Harry hésita, se demandant s'il devait mentir ou pas. Il contempla les minuscules empreintes de pas laissées par les gnomes autour des massifs de fleurs et les traces de lutte à l'endroit où Fred avait capturé le gnome vêtu d'un tutu qui ornait à présent l'arbre de Noël. Finalement, il décida de dire la vérité, en partie tout au moins. « Oui, nous en avons parlé. »«
Ah, vraiment, vraiment !»
dit Scrimgeour. Du coin de l'œil, Harry vit qu'il l'observait, et il fit semblant d'être soudain très intéressé par un gnome qui venait de montrer sa tête sous un rhododendron gelé.
« Et... « Que vous a raconté Dumbledore ?»«
Désolé, mais c'était une conversation privée, » répliqua Harry. Il avait parlé d'une voix aussi aimable que possible, et le ton de Scrimgeour fut tout aussi léger et amical lorsqu'il lui déclara
« Oh, bien sûr, si c'est confidentiel, je ne veux surtout pas que vous révéliez quoi que ce soit. Non, non. D'ailleurs, est-ce si important de savoir si vous êtes l'élu ou pas ?»
Harry réfléchit quelques instants avant de répondre.
Je ne saisis pas très bien ce que vous voulez dire, monsieur le ministre.
Bien entendu, pour vous, c'est d'une très grande importance,
assura Scrimgeour en éclatant de rire.
Mais pour la communauté des sorciers en général, tout dépend des points de vue, n'est-ce pas? L'essentiel, c'est ce que les gens croient.
Encore une fois, Harry resta muet. Il voyait plus ou moins où Scrimgeour voulait en venir, mais il n'avait pas l'intention de l'aider à y arriver plus vite. À présent, le gnome creusait au pied du rhododendron pour chercher des vers, et Harry ne le quitta pas des yeux.
« Les gens croient que vous êtes l'élu, comprenez-vous ? » reprit Scrimgeour. « Ils vous voient comme un héros. Ce que vous êtes sans doute, Harry, élu ou pas. » Combien de fois avez-vous affronté celui dont on ne doit pas prononcer le nom? Quoi qu'il en soit, poursuivit-il sans attendre de réponse, le fond des choses, c'est que pour beaucoup vous êtes un symbole d'espoir, Harry. Vous incarnez l'idée que quelqu'un sera peut-être capable un jour de terrasser celui dont on ne doit pas prononcer le nom. Alors, bien sûr, pour eux, c'est une raison de retrouver le moral. Et je ne puis m'empêcher de penser qu'étant conscient de cela, vous considérerez, disons presque comme un devoir, de soutenir le ministère afin de redonner confiance à chacun.
Le gnome avait réussi à attraper un ver qu'il tirait de toutes ses forces pour essayer de l'arracher du sol gelé. Harry resta si longtemps silencieux que Scrimgeour, les regardant tour à tour le gnome et lui, finit par dire
Et... « Drôle de petit bonhomme, n'est-ce pas? Alors, qu'en pensez-vous ?»«
Je ne comprends pas très bien ce que vous voulez, » répondit Harry avec lenteur. « Soutenir le ministère, qu'est-ce que ça signifie ?»«
Oh, rien de très contraignant, je peux vous l'assurer. Et si, par exemple, on vous voyait entrer au ministère ou en sortir de temps en temps, ce serait... » suffisant pour faire bonne impression. Et bien sûr, quand vous seriez là-bas, vous auriez toute possibilité de vous entretenir avec Gwen Roberts, mon successeur comme directeur du bureau des Aurores. Dolores Ombrage m'a dit que vous nourrissiez l'ambition de devenir Aurore. Voilà quelque chose qu'on pourrait très facilement arranger.
Harry sentit la colère bouillonner au creux de son estomac. Ainsi donc, Dolores Ombrage était toujours au ministère. « En somme, dit-il, comme s'il voulait clarifier la situation, vous voudriez donner l'impression que je travaille pour le ministère.
» Tout le monde se sentirait stimulé si on pensait que vous êtes engagé à nos côtés,
affirma Scrimgeour, apparemment soulagé que Harry ait si vite compris.
« L'élu, comprenez-vous. » Il s'agit de rendre espoir aux gens, de leur donner le sentiment que les choses bougent.
« Mais si on me voit entrer souvent au ministère, dit Harry en s'efforçant de conserver un ton amical, n'aurais-je pas l'air d'approuver l'action des autorités ?»«
Eh bien, répondit Scrimgeour, les sourcils légèrement froncés, en effet, c'est en partie la raison pour laquelle nous aimerions.
Je ne pense pas que ce soit possible. » l'interrompit Harry d'un air aimable. « Car voyez-vous, je n'apprécie pas du tout certaines initiatives du ministère, l'arrestation de Stan Rockard, par exemple. » Pendant un moment, Scrimgeour ne prononça pas un mot, mais son visage s'était instantanément durci.
« Vous ne pouvez pas comprendre cela, »
dit-il en se montrant moins habile que Harry à chasser toute colère de sa voix.
« Nous vivons une époque dangereuse. » Et il faut prendre certaines mesures. Vous n'avez que 16 ans.
Dumbledore a beaucoup plus de 16 ans. Et il ne croit pas non plus que Stan Rockard ait sa place à Azkaban, objecta Harry. Vous faites de Stan un bouc émissaire, de la même façon que vous voulez me transformer en mascotte. Ils s'observèrent longuement, de regard dur. Enfin, abandonnant tout effort pour se montrer chaleureux, Scrimgeour lança
« Je vois. » Vous préférez, comme votre héros Dumbledore, vous dissocier du ministère.
Je ne veux pas qu'on se serve de moi, répondit Harry.
Certains diraient qu'il est de votre devoir de laisser le ministère se servir de vous.
Oui. Et d'autres pourraient dire qu'il est de votre devoir de vérifier si les gens sont vraiment des mange-morts avant de les jeter en prison, répliqua Harry, qui commençait à s'énerver.
Vous agissez de la même manière que Barty Croupton. Décidément, vous vous trompez toujours. Ou bien on a Fudge qui prétend que tout va pour le mieux, alors que des gens se font tuer sous son nez, ou bien on a vous, qui envoyez des innocents en prison en essayant de faire croire que l'élu vous soutient.
Vous n'êtes donc pas l'élu ?
Demanda Scrimgeour. Je croyais que de toute façon ça n'avait pas d'importance, répondit Harry, avec un rire amer. Pour vous, en tout cas.
Je n'aurais pas dû parler ainsi, admit Scrimgeour. J'ai manqué de tact.
Non, vous étiez sincère, coupa Harry. C'est même une des seules choses sincères que vous m'avez dites. Vous vous en fichez que je vive ou que je meure, mais vous aimeriez bien que je vous aide à convaincre tout le monde que vous êtes en train de gagner la guerre contre Voldemort.
Je n'ai pas oublié, monsieur le ministre.
Il leva son poing droit. Là, sur le dos de sa main glacée, on voyait briller les cicatrices blanchâtres laissées par les mots que Dolores Ombrage l'avait obligé à graver dans sa propre chair.
« Je ne dois pas dire de mensonge.
Je ne me souviens pas que vous vous soyez précipité pour prendre ma défense quand j'essayais d'avertir les autres que Voldemort était de retour.
Le ministère n'était pas si soucieux de m'avoir pour ami l'année dernière. »
Ils restèrent face à face dans un silence aussi glacial que le sol sous leurs pieds. Le gnome avait enfin réussi à extraire son verre de terre et le dégustait d'un air joyeux, appuyé contre les branches basses du massif de rhododendron.
« Que prépare Dumbledore ?» demanda brusquement Scrimgeour. « Où va-t-il quand il s'absente de Poudlard ?»«
Aucune idée, » répondit Harry.
« Et si vous le saviez, vous ne me le diriez pas, j'imagine. »«
Non. »
« Dans ce cas, je verrai si je peux le découvrir par d'autres moyens. »«
Vous pouvez toujours essayer, » dit Harry d'un ton indifférent, « mais vous semblez plus intelligent que Fudge, et je pensais que vous auriez tiré un enseignement de ses erreurs. Il a essayé de se mêler des affaires de Poudlard. Résultat, vous aurez sans doute remarqué qu'il n'est plus ministre, alors que Dumbledore est toujours directeur. Si j'étais vous, je laisserais Dumbledore tranquille. » Il y eut un long silence.
Eh bien, je vois qu'il a fait du bon travail sur vous,
dit enfin Scrimgeour, le regard froid et dur derrière ses lunettes cerclées de fer.
Vous êtes l'homme de Dumbledore jusqu'au bout, Potter.
En effet, répondit Harry, je suis content que ce soit clair entre nous. Et tournant le dos au ministre de la magie, il revint à grands pas vers la maison.